Le scrutin provincial, particularité et enjeux, nouvelle page spéciale dans ce journal pour bien comprendre le mode de scrutin et ses conséquences sur le paysage institutionnel. Des milliers de lanternes célestes ce soir dans le ciel de Nouméa, la ville va célébrer les 172 ans de sa fondation. Le GIEP promeut son dispositif SPOT au travers d'une journée porte ouverte. 90 stagiaires bénéficient de ce parcours d'insertion professionnelle. En métropole, une partie des magistrats s'organise après les dysfonctionnements révélés par l'affaire Liana et crée une boucle WhatsApp, un réflexe corporatiste pour ses protégés, estiment certains. Jusqu'à 43 degrés en métropole la nuit dernière pour nous, la vague de canicule se poursuit et le débat sur les clims n'est pas clos. Et puis le football avec la suite des troisièmes matchs de poule. Ce matin, la Suisse, le Canada, le Brésil et le Maroc ont décroché leur qualification pour les 16e de finale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés des hydrocarbures et provoqué partout dans le monde une hausse des prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Quel est l'état des lieux actuels, l'évolution du marché et les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie? Ce sera le thème des jeudis de l'économie que vous retrouverez comme chaque semaine à midi juste après ce journal. Nous serons en compagnie de Martin Fessard, le directeur général de Total Energy Pacifique, et de Franck Willems, le directeur général de Mobil. Un jeudi de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal que nous ouvrons évidemment par une nouvelle page consacrée aux élections provinciales.
RRB, élections provinciales 2026.
Prenons donc bien le temps dans cette page spéciale de comprendre les enjeux du vote de dimanche. Nous allons faire notamment en compagnie de Bernard Deladrière, qui est spécialiste en droit constitutionnel et signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter ce mode de scrutin aussi avec vous, Elisabeth Noir, parce que dans moins d'une semaine, ce sont 192 584 électeurs qui sont appelés aux urnes pour le renouvellement des assemblées de province. Un scrutin propre à la Nouvelle-Calédonie qui détermine la donne politique et institutionnelle pour les 5 ans à venir.
Et c'est un scrutin qui était très attendu puisque la durée du mandat provincial c'est de 5 ans, mais que la mandature qui s'achève aura duré 2 ans de plus. Elle a commencé en 2019. Un prolongement en raison des discussions sur l'avenir institutionnel et des discussions autour de l'ouverture du corps électoral provincial. Tout cela a contribué à rallonger le calendrier. Une élection déterminante, ces élections provinciales permettent en effet, nous y reviendrons, de désigner à la fois les assemblées de province, le congrès et le gouvernement. Il y a 76 conseillers provinciaux qui vont être élus ce dimanche, Bernard Deladrière.
Oui, alors d'abord, effectivement, vous avez rappelé que les élections ont été reportées de 2 ans. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, hein. C'est du jamais vu. Donc il était vraiment temps qu'elles aient lieu. Et j'insiste beaucoup, vous l'avez fait, beaucoup l'ont fait, sur le fait que c'est une élection à un tour. Et les gens ont l'habitude, les électeurs ont l'habitude des élections à deux tours. Les présidentielles, les législatives, les municipales dont on sort, parfois même avec 15 jours de délai entre le premier et le deuxième tour. Or, il faut vraiment se mettre dans la tête que là, il n'y aura qu'un seul scrutin, qu'un seul tour, si on peut dire. Et donc, le 28 juin, à la fin, lorsque les résultats seront connus, les jeux seront faits. Et donc, vous avez rappelé que le premier objet, bien sûr, c'est d'élire 76 membres des assemblées de province. Mais il faut rappeler que c'est une élection aux assemblées de province et au Congrès. Et qu'ensuite, il y en aura, sur les 76, il y en a 54 qui sont membres du Congrès. On aura peut-être l'occasion, dans le cours de l'émission, de revenir sur les provinces, le Congrès, le gouvernement, etc. Mais effectivement, il y a un enjeu politique absolument majeur, dont tous les électeurs doivent être, et tous les auditeurs doivent être bien conscients. C'est-à-dire que, comme chacun le sait, les accords de Bougival et puis Élysée ou Dino, on peut dire, sont mort-nés. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'accord qui viendrait se substituer à l'accord de Nouméa. Et donc il va falloir reprendre des négociations. Chacun, je crois, est disposé, j'ai entendu dans les différents débats, chacun est disposé à s'asseoir autour de la table. Et donc, un des principaux, si ça n'est le principal enjeu du scrutin de dimanche, c'est de légitimer les élus qui s'asseyront autour de la table pour reprendre cette négociation. Donc c'est essentiel.
Même si, d'ailleurs, l'une des dominantes de cette campagne, c'est que l'avenir institutionnel a été relativement peu présent. On a beaucoup parlé de relance économique, de reconstruction, de développement économique, et pas tellement d'avenir institutionnel. Ça ne vous a pas étonné ?
Alors, ça ne m'a pas vraiment étonné, parce que les gens qui font campagne sont quand même attentifs, avertis, et donc on sait très bien tous que la préoccupation majeure des Calédoniens aujourd'hui, c'est leur vie quotidienne, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est le transport, etc. Donc, personnellement, je me suis félicité que ça soit abordé, qu'il y ait des propositions concrètes, mais, comme je viens de le dire, comment choisit-on ceux qui vont négocier ? On ne peut pas les choisir comme ça, à pile ou face, en fonction des envies que l'on a. Ce sont bien ces élections qui vont permettre de dire qui a le droit, la légitimité pour s'asseoir autour de la table.
Parce que c'est relativement récent, c'est que aujourd'hui, l'interlocuteur de l'État, ce sont les groupes politiques du Congrès et les présidents de groupes, notamment.
Exactement. Plus on peut rajouter les parlementaires, qui aussi, donc députés et sénateurs, qui bien évidemment ont une légitimité très forte, surtout les députés, je dirais, puisqu'ils sont élus sur leur propre nom.
Mais c'est une nouveauté, ça, que ce soit les groupes du Congrès. Vous avez connu une époque où il y avait des signataires qui étaient les interlocuteurs de l'État. Aujourd'hui, effectivement, ce sont plus les groupes politiques du Congrès.
Oui, les signataires qui prenaient de l'âge et puis dont malheureusement un certain nombre ont disparu, tout simplement, n'ont plus été considérés comme suffisamment légitimes pour être les seuls et même pour être tout simplement autour de la table.
Alors 76 conseillers provinciaux au total qui vont donc être élus ce dimanche. 40 pour la province sud, 22 pour la province nord, 14 dans la province des îles. Ça bouge pas, c'est un chiffre qui est immuable pour l'instant.
Alors, vous avez raison de dire pour l'instant, parce que on oublie souvent que la loi organique en vigueur prévoit que avant la dernière année du mandat, les assemblées de province auraient pu décider, pour le prochain mandat, donc celui qui va commencer, de diminuer le nombre de membres des assemblées de province. Bon, on peut comprendre pourquoi, les places sont chères, et donc personne n'a pris cette initiative. Je crois que vous le rappeliez tout à l'heure, on désigne les membres des assemblées de province, et donc l'élection, le scrutin, la répartition des sièges se fait en deux temps. On répartit d'abord les sièges des membres du Congrès, et ensuite on répartit les membres qui ne siègent que dans les assemblées de province.
Et là aussi c'est bien prévu, donc 32 des 40 élus de la province sud siègent au Congrès, 15 des 22 élus de la province nord siègent au Congrès et 7 des 14 élus de la province des îles siègent au Congrès. Ensuite, ils élisent les membres du gouvernement. Ça aussi, alors, on parle des assemblées, on parle des provinciales. Beaucoup disent que c'est des territoriales parce qu'on élit le Congrès. Et la majorité du Congrès, c'est quelque chose d'important aussi qui détermine un peu tout le reste.
Alors, la majorité du Congrès, c'est très important. On ne va pas rappeler aujourd'hui tous les pouvoirs du Congrès, mais notamment le vote des lois du pays, c'est-à-dire les textes les plus importants en matière fiscale, sociale, etc. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que c'est le Congrès qui élit le gouvernement. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'émanation du Congrès. Et là encore, c'est un scrutin à la proportionnelle qui reflète donc exactement la composition politique du Congrès. Et donc là aussi, il y a un enjeu de majorité. C'est que s'il n'y a pas une majorité nette et stable au Congrès, eh bien, ipso facto, il n'y aura pas de majorité nette et stable au gouvernement.
Ce qu'on a connu ces 7 dernières années.
Exactement.
Alors que ça n'avait pas été le cas dans les mandatures précédentes de l'accord de Nouméa, les majorités étaient plus claires.
Alors, il faudrait faire toute une analyse historique, mais disons que pendant le début de l'accord de Nouméa, c'était clair et net, quoi. Il y avait un RPCR archi-dominant, et puis un FLNKS uni, et donc les choses étaient claires.
Mais cette dernière mandature, il y a eu notamment l'émergence de l'éveil océanien qui lui-même s'est présenté comme un groupe charnière et qui a bousculé les majorités, enfin qui a rendu la majorité improbable en fonction des circonstances, des textes.
Voilà. Et donc c'est tout l'enjeu. Donc à titre personnel, je trouve légitime que les minorités soient représentées, que ça soit dans les assemblées de province, au Congrès, au gouvernement, mais il faut pas que ces minorités s'arrogent finalement le pouvoir de faire et défaire les rois, comme on dit.
Alors, une élection importante, on l'a dit, une élection qui va permettre de désigner les assemblées de province, le Congrès et après le gouvernement, tout ça en une seule journée de vote dimanche, avec un mode de scrutin là aussi un peu particulier.
Oui, donc c'est un scrutin proportionnel de liste et avec la répartition des sièges selon la règle de la plus forte moyenne. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc, il faut considérer que ça donne une photographie instantanée, je dis bien instantanée, le 28 juin, de rapport de force politique en Nouvelle-Calédonie. Et cet instantané, eh bien, il va déterminer l'avenir politique, économique, institutionnel, social, etc., de la Nouvelle-Calédonie pour 5 ans, et aussi les rapports de force pour les discussions politiques. Donc, on a quand même, lorsqu'on a négocié l'accord de Nouméa, pour éviter, parce que le scrutin proportionnel, c'est un scrutin qui, par définition, ne garantit pas de majorité. Il garantit la représentation équitable de tout le monde, mais pas de majorité. Et donc, on a quand même mis cette barre de 5%. Je le rappelle, ce n'est pas 5% des suffrages exprimés, c'est 5% des inscrits qui limitent un petit peu le risque d'éparpillement. Je dis bien un petit peu.
C'est assez rare d'ailleurs dans une élection, cette barre de 5% des inscrits, on ne les retrouve pas, je crois, ailleurs.
En général, c'est plutôt sur les suffrages exprimés. Oui.
Donc c'est encore une particularité de la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait.
Cette barre, on la connaît depuis quelques jours, puisque l'ESP, la liste électorale spéciale provinciale, a été rendue publique, avec notamment l'intégration des natifs. 192 584 électeurs en province sud, 127 474, c'est-à-dire vraiment la grosse majorité du corps électoral se trouve en province sud, où la barre à atteindre est de 6 374 voix. Ça paraît très élevé quand même au vu des résultats des élections précédentes.
C'est très élevé. On le disait dans un des derniers clubs politiques, et on sera amené à le répéter, il va y avoir un élément déterminant, c'est le taux d'abstention. Parce que naturellement, plus le taux d'abstention sera élevé, plus ce seuil sera difficile à atteindre. Et quand on regarde les élections de 2019, eh bien, moi je considère qu'il n'y a pas beaucoup de listes, en tout cas dans le Sud, qui, sauf énorme surprise, sont susceptibles d'arriver à ces 6374 voix.
Dans la province nord, la barre est de 2151 voix. Dans la province des îles, 1105 voix. Alors, c'est des seuils qui sont beaucoup plus bas, mais bon, le corps électoral est plus bas aussi.
Oui, tout à fait. C'est mathématique. Hein. 43 016 électeurs dans le nord, 22 094 dans les îles. Donc, mais la situation entre le nord et les îles, vous l'avez illustré par de nombreux débats, nombreuses interviews, est quand même très différente. C'est-à-dire que c'est dans le nord qu'il y a le moins de listes. Et proportionnellement, je dis bien proportionnellement, c'est dans les îles qu'il y en a le plus. Donc, c'est dans les îles, à mon avis, que la situation est la plus incertaine, même si dans le Nord, chacun le sait, c'est l'enjeu de savoir si l'UNI et Paul Néotine garderont la majorité ou pas à l'Assemblée de province.
Alors, il y a une question qui a fait débat et même polémique pendant cette campagne électorale, c'est le cas de ce qu'on appelle les petites listes. Alors, je sais que les gens qui conduisent ces listes, et on les comprend, n'aiment pas être qualifiés de petites listes, puisque chacun a vocation à devenir une grande liste. Les gens qui votent, les électeurs qui votent pour des petites listes qui ne franchissent pas cette barre, notamment dans le Sud, de 6374 électeurs, ces voix, elles sont vraiment perdues ou elles représentent quand même quelque chose? Elles doivent être prises en compte? Comment est-ce qu'on peut gérer ça démocratiquement?
Elisabeth, vous aimez les questions difficiles.
Mais c'est pour ça qu'on vous invite, Bernard.
Donc, d'un point de vue démocratique, chacun a le droit de se présenter, chacun a le droit de présenter une liste sous réserve d'un certain nombre de conditions à remplir. Et donc, je trouve sain qu'on ait ce choix. Maintenant, on a 10 listes dans le Sud.
11.
Oui, c'était 12, en fait, voilà. 11. Et donc, ça fait beaucoup. Alors, dire que ces voix sont inutiles, sont gaspillées, c'est faire injure aux électeurs qui ont envie de ceux qui ont envie de changement, qui ont envie de se prononcer pour ces listes-là. Simplement, une élection, c'est aussi mathématique, c'est des calculs qu'on vient de faire rapidement, et donc il faut être conscient que la liste petite, enfin bon, je reprends votre terme, je mets plein de guillemets, risque de ne pas franchir les 5%. Mais ça n'empêche pas que ces électeurs-là auront envoyé un signal.
Voilà donc pour ces différents éléments. Il reste peut-être à voir le calendrier. Donc le vote, c'est dimanche, on l'a bien compris, il y a un seul tour, une élection déterminante. Et qui, en fait, ouvre tout un cycle. Qu'est-ce qui va se passer après le 28 juin ?
Alors, il y a des choses qui sont claires, c'est-à-dire que les assemblées de province se réuniront dès le 3 juillet pour élire leur président, tout leur président et les trois vice-présidents des assemblées de province. Autre chose qui est claire, c'est qu'une semaine après, le 10 juillet, ça sera le congrès qui se réunira, qui élira, mais lui, c'est chaque année, qui élira son président, sa présidente, le bureau du Congrès, etc. Dans la foulée, il faudra que le Congrès fixe le nombre de membres du gouvernement. Et alors ensuite, pour l'élection du gouvernement, la loi prévoit un délai plus long, ça peut atteindre 21 jours. L'explication, c'était pour laisser le temps aux négociations entre les différents groupes au Congrès pour essayer d'aboutir dans l'idéal, une espèce de programme de gouvernement, etc. En général, mon expérience, c'est qu'on n'attend pas ces 21 jours, on essaie d'aller plus rapidement. Et une fois que le gouvernement est élu par le Congrès, le gouvernement, lui, a 5 jours pour élire son président et son vice-président. Et là, l'expérience des mandatures de l'accord de Nouméa montre que ça n'est pas toujours si facile que ça, qu'il faut parfois s'y remettre à plusieurs reprises. Si tout se passe bien, s'il y a des majorités solides, etc., on pourrait avoir toutes les institutions en place début août.
Donc la reprise des discussions institutionnelles, ce ne sera pas juillet de toute façon, contrairement à ce qui avait été dit. Le mois d'août, c'est les vacances en métropole.
Voilà. Donc ça serait plutôt à la rentrée, à mon avis. Hein, mais bon.
En tout cas, beaucoup d'échéances et beaucoup d'actualités à suivre encore et à commenter dans les prochaines semaines. Et on se retrouve de toute façon, Bernard Day, demain soir dans le Club Politique.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Bernard Deladrière pour ses explications, Elisabeth Noir pour le mode de scrutin et ses enjeux pour les élections provinciales de dimanche. Quelques informations encore sur la campagne. Le haut-commissaire alerte sur un mail frauduleux. Ce mail indique que votre dossier pour la liste électorale spéciale provinciale est incomplet. Faites attention, c'est un mail frauduleux qui ne vient pas de l'État. C'est une tentative de phishing. Il ne faut donc ni cliquer ni répondre, évidemment, si vous recevez cet email. Et pendant ce temps-là, la campagne se poursuit sur le terrain. Charlotte Coulson, plusieurs réunions et meetings sont organisés aujourd'hui, notamment en province sud.
Ah oui, à commencer par la liste Faire Pays qui est menée par Robert Kakoué qui se réunira au foyer wallisien à partir de 16h pour un meeting final. Réunion de fin de campagne également pour la liste Kanaki pour tous de Joanito Wamitan, ça sera à 18h au doc socioculturel de Païta. La liste France Calédonie Une Patrie menée par Alain Descombelles tiendra quant à elle son meeting final au rooftop de l'endroit à 18h. Autre rendez-vous de campagne à 17h, la liste portée par Mila Koulou Tukumouli, Un autre monde est possible, sera au doc socioculturel de La Foix. Et à 18h, les colistiers seront au hameau du Bois à Tina. La liste de Wallis Cotra, Une province pour tous, continue les rencontres de terrain. Ce soir, les colistiers seront à Robinson et à Cathy Ramona à 18h. Ce soir également, Louis Mapou, tête de liste unie dans le Sud, invite le public à la salle de la mairie du Mont d'Or à 18h.
Réunion de terrain également, Charlotte, pour les les candidats en lice en province Nord et en province des Îles.
Dans le Nord, la liste UC-FLNKS menée par Pascal Saoua est aujourd'hui à point bout. La liste unie du président sortant Paul Néoutine sera réunie à 14h à Bois-Panou. La liste Agissons ensemble pour le Nord de Vanessa Ouachapeau tiendra son meeting de fin de campagne à 18h à la salle Aupitiri à Conné. Enfin, dans les Îles, la liste UC-FLNKS de Michael Forest organise des réunions sur Marais à 16h à Padawa et puis à 18h à Touau. À Lifou, une réunion est organisée à Répéné à 17h30. À Lifou également, la liste Union pour construire dans le consensus de Jacques Lallier se rend à Mélec à 17h et puis à Kézen à 18h30. La liste Palika Île de Wali Waïcha organise aujourd'hui des réunions sur les trois îles Loyauté à partir de 16h à Ouvéa et à Lifou et 17h à Marais. Et enfin, la liste Nation autochtone portée par Omaira Neslin organise une réunion publique ce soir à la maison commune de Saint-Paul.
Réformer le système scolaire en Nouvelle-Calédonie, c'était la demande de l'Union des groupements de parents d'élèves. Le 10 juin dernier, l'UGPE a adressé un questionnaire aux 23 listes candidates aux élections provinciales dans les trois provinces pour les interpeller, disait-elle, sur un système éducatif à bout de souffle. Elle a reçu des réponses écrites de la part de la liste Un autre monde est possible de Mila Kulotukumuli, de l'UCFLNKS Nord, de Faire Pays et de la liste Union pour construire dans le consensus de Jacques Lallier dans les îles. D'autres listes ont fait un retour par téléphone, comme la liste FLNKS dans le Sud ou Nation autochtone dans les îles. Écoutez Jean-François Toutiquian, le secrétaire de l'UGPE.
Il y avait des choses très précises, comme par exemple le transfert des compétences de l'enseignement du second degré, qui ne va pas assez loin. Donc là, ils sont d'accord pour repartir en négociation avec l'État français. Ils sont d'accord aussi pour le transfert de l'université à la Nouvelle-Calédonie. Au niveau de l'enseignement primaire, on a obtenu la compétence, mais en fait, on ne l'applique pas. Par exemple, le conseil d'école. Donc ils sont d'accord pour relancer cette structure. Ils sont d'accord pour reconstruire un établissement scolaire du côté de Rivière-Salée. Ils sont tous d'accord pour dire que oui, il faut remettre cette question au centre des débats et puis revoir la fonction de l'école.
L'UGPE souhaite reprendre contact avec les quatre listes qui ont répondu au questionnaire après les élections, espère donc qu'elles obtiennent des sièges au sein des futures assemblées. De son côté, la FINC continue de communiquer sur son projet de refondation qui s'articule autour de 52 mesures concrètes qui couvrent 8 thématiques. Elle appelle les futurs élus des assemblées de province à s'engager sur ces mesures dès le premier jour de la prochaine mandature. La FINC souligne que ce programme économique n'est pas partisan et qu'il est au service de toutes les entreprises calédoniennes, quelle que soit leur taille.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les élections provinciales vont permettre de dégager une majorité claire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 32% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. La campagne électorale pour les provinciales touche à sa fin. Trouvez-vous qu'elle s'est déroulée sereinement et dans de bonnes conditions? Si vous trouvez qu'elle s'est déroulée sereinement et dans de bonnes conditions, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h54. Voilà pour l'essentiel de l'actualité liée à la campagne provinciale. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et notamment la fête à l'occasion de l'anniversaire de la ville de Nouméa ce soir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chaque mardi à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Au début, on ne choisit pas son menu. Ensuite, on passe en cuisine. Enfin, on essaie. Et parfois, on n'a juste pas eu le temps de faire les courses.
Oh là là.
Heureusement, il y a toujours une façon de sauver son repas.
Voici votre commande.
Merci beaucoup.
Faites-vous plaisir avec Midit.
Trop bon.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Soirée très animée ce soir à Magenta à l'occasion de l'anniversaire de la ville de Nouméa pour marquer les 172 ans de sa fondation par le capitaine de vaisseau Louis Tardy de Montravel. La ville de Nouméa convie tous les Nouméens à son traditionnel lâcher de lanterne céleste. Ce sera évidemment sur le terrain municipal de Magenta en face du stade Numadélé. Écoutez Sonia Lagarde, le maire de Nouméa.
C'est un ravissement pour tout le monde, hein, ce lâcher de lanterne. C'est absolument, c'est à la fois très zen, à la fois très beau. Et puis il y aura sur le spot de Magenta ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les jeux pour les enfants, les baraques à frites, etc. C'est important tous les ans hein, de dire ben aujourd'hui voilà plus de 170 ans quand même et on est toujours là à fêter cet anniversaire. Je crois que c'est important de fêter ça et puis en même temps de dire ben on continue d'avancer et on continue de travailler pour améliorer la ville. Et puis se donner aussi, à l'occasion de cet anniversaire, des espaces beaux, comme ce lâcher de lanterne.
C'est la 12e année consécutive que la ville de Nouméa organise ce lâcher de lanterne céleste pour marquer la date anniversaire de sa fondation, le 25 juin 1854. La première fois, c'était pour les 160 ans de la ville. Marc-Olivier Verger, le secrétaire général adjoint de la ville de Nouméa.
La mairie, en 2014, essaie de trouver un prétexte pour que les Nouméens s'approprient l'histoire de Nouméa. Parce que c'est vrai que cette date, on ne la connaissait pas. Nous avons créé un festival pendant une semaine pour les 160 ans et le point d'orgue a été le lâcher de ces 160 lanternes qui allaient symboliser finalement les bougies qu'on allait souffler avec le public. Et finalement, c'est le public qui devient acteur de cette opération. Ce moment voilà, partagé où on va lâcher 4500 lanternes tous ensemble. C'est ce qui fait vraiment la magie de la chose.
Le public est donc attendu à partir de 17h30 ce soir sur le terrain municipal de Magenta en face de Numa Delay. La distribution des lanternes se fera à partir de 19h pour un lâcher à partir de 20h. Au total, vous l'avez entendu, ce sont 4500 lanternes qui vont illuminer le ciel de Nouméa. Une journée porte ouverte au JPNC ce matin. Les stagiaires du SPOT, le dispositif d'insertion pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, accueillent toute la journée les partenaires institutionnels, les professionnels et les chefs d'entreprise au sein de leur établissement à Nouville, Léana Colombo.
Oui, une journée imaginée et préparée avec les 90 stagiaires du SPOT. Objectif de cet événement, faire découvrir la réalité des parcours d'accompagnement et les compétences développées par les apprenants depuis leur entrée dans le dispositif. Cette journée portes ouvertes destinée aux professionnels du secteur vise à favoriser les rencontres entre stagiaires et employeurs potentiels dans une véritable dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Les explications de Laurent Caléja, responsable du Pôle SPOT.
On s'est dit que l'idée était le bon moment pour organiser cette journée avec les professionnels, pour que les professionnels de l'insertion se rencontrent entre eux, du monde de l'entreprise aussi, des institutions, et puis qu'ils viennent se rendre compte, parce qu'on se contacte par téléphone, en réunion, quoi. Mais là, qu'ils viennent à demeure, qu'ils rencontrent les stagiaires, donc il y a des moments d'échange avec les stagiaires, il y a des participations dans les ateliers aussi pour qu'ils viennent souder, fabriquer des chouquettes, faire de la menuiserie. Hein. Et du coup, on espère, avec ces actions-là, que les gens se connaissent mieux, que ça mette un peu d'huile dans les rouages et puis que ça favorise l'insertion de nos stagiaires qui sont en recherche d'emploi, qui sont en recherche de formation et que l'insertion soit plus facile pour eux.
La journée Portes Ouvertes est organisée jusqu'à 15h30. Elle s'achèvera avec une table ronde sur le thème « Recruter et accompagner autrement ».
Il est 11h59. Dans un instant, une page consacrée à l'actualité en métropole.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Groupama, votre assurance à prix réduit pour toute la vie. Oui, vous avez bien entendu. En ce moment, chez Groupama Pacifique, bénéficiez de 25% de remise à vie sur l'assurance de votre voiture. Petit budget, assurance tout risque, véhicule récent ou plus ancien, avec nos trois formules au choix, trouvez la protection qui vous convient vraiment. Alors n'attendez plus. Rendez-vous dès maintenant dans votre agence Groupama Pacifique ou sur www.groupama-gan.nc.
Groupama.
Nouméa fête ses 172 ans.
Venez célébrer l'anniversaire de la ville ce jeudi 25 juin au terrain municipal de Magenta. Les animations débuteront dès 17h30.
Et à 19h, la distribution des lanternes commencera, en attendant leur envol magique à 20h.
Stands de restauration et manèges pour les enfants seront également de la partie. Plus d'infos sur www.nouméa.nc et sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité nationale avec Jean-François Bodin.
Et faut-il parler d'un réflexe corporatiste d'une partie de la magistrature? En tout cas, une partie des juges s'organise après les dysfonctionnements révélés par l'affaire Liana. Une partie d'entre eux a donc créé une boucle WhatsApp pour exprimer son indignation, notamment après les sanctions infligées au substitut du procureur de la République d'Auch, Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Sur le groupe en ligne, certains magistrats proposent de saturer ou de bloquer la boîte mail du cabinet du garde des Sceaux, d'autres de faire valoir leur droit de retrait ou de renvoyer de manière systématique les prochaines audiences. Quelques magistrats vont encore plus loin puisqu'une juge des libertés et de la détention va jusqu'à inciter ses collègues à signaler de fausses erreurs professionnelles au Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, avoir oublié de signer le mandat de dépôt d'un violeur présumé, et tout cela dans un seul but, saboter la machine judiciaire. Mais ça ne pourrait pas être sans conséquences. Ces propositions peuvent être perçues comme des fautes disciplinaires si l'on s'appuie sur l'ordonnance de décembre 1958 portant sur le statut des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature pourrait ainsi décider de sanctionner les juges ayant participé à cette boucle, des sanctions allant d'un simple avertissement à la révocation en fonction de la gravité des propos tenus.
D'autres décisions de justice font réagir, notamment celle à l'encontre du maire de Chessy. Il avait refusé de célébrer le mariage d'un Algérien sous OQTF et il va devoir lui verser 6 000 euros d'amende, c'est-à-dire 720 000 francs. Décision qui intervient alors que les députés vont examiner la nuit prochaine un texte pour interdire le mariage des immigrés sous OQTF, texte proposé par l'UDR d'Éric Ciotti dans le cadre de sa niche parlementaire. Jacques Serret.
C'est une décision qui tombe au pire moment pour le gouvernement. Alors que l'Assemblée s'apprête à examiner la proposition de loi portée par l'UDR d'Éric Ciotti sur les mariages d'étrangers en situation irrégulière, la mairie de Chessy vient d'être condamnée à verser 6 000 euros à un Algérien sous OQTF et à son épouse. L'affaire dure depuis plus d'un an. L'ancien maire de la commune, Olivier Bourgeot, refusait de célébrer cette union, estimant qu'elle pouvait permettre au futur époux de régulariser sa situation. La justice avait alors ordonné la célébration de l'union sous peine de lourdes astreintes financières. Le mariage a finalement été célébré en avril et la commune est aujourd'hui condamnée à payer. Pour les défenseurs du texte examiné ce jeudi, cette affaire illustre donc une contradiction devenue intenable. Un étranger visé par une OQTF peut se marier en France, tandis que l'élu qui s'y oppose risque des sanctions. C'est précisément l'argument avancé également par Robert Ménard. Le maire de Béziers sera jugé le 30 septembre pour avoir lui aussi refusé de marier un Algérien sous OQTF.
En bref, l'actualité en métropole, c'est aussi cette nouvelle journée de canicule. Les températures ont atteint jusqu'à 43 degrés par endroit. Journée qui a été enregistrée, comme la journée la plus chaude avec 39 degrés jour et nuit en moyenne. Et puis, notez que l'adolescent de 17 ans laissé pour mort sur un chantier à Narbonne il y a deux jours est décédé de ses blessures. 5 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées et mises en examen. Ils auraient donné rendez-vous à la victime en ville avant de le conduire sur ce chantier isolé où ils l'ont violemment frappé. La victime connaissait certains de ses agresseurs qu'il avait croisés lorsqu'il était suivi par l'aide sociale à l'enfance. Midi 3, dans un instant, le sport avec notamment le point sur le mondial de football. Et ensuite, ce sera les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous vous intéressez aux sciences politiques et aux relations internationales ? À la rentrée 2027, l'Université de la Nouvelle-Calédonie ouvre une nouvelle licence d'études politiques, Parcours études du Pacifique. Une formation sélective en mode IEP pour comprendre le monde d'aujourd'hui et former les décideurs de demain. Sciences politiques, droit, économie, géopolitique et enjeux climatiques, rejoignez cette formation d'excellence comprenant une mobilité internationale. Infos et programmes sur unc.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec bien entendu votre page Coupe du Monde avec Jean-François Baudin.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
Et la phase de groupe s'accélère jusqu'à dimanche. Ce sont désormais 6 matchs et non plus 4 qui sont programmés chaque jour. Ce matin et aujourd'hui, Liana Colombo, ce sont les groupes A, B et C qui sont en jeu.
Oui, ce sont les équipes du groupe B qui ont ouvert le bal à 6h. Dans un duel pour la première place, la Suisse s'est imposée sur le Canada. Une victoire 2-1 qui permet aux Suisses de terminer en tête du groupe devant le pays hôte. Victoire difficile pour le défenseur suisse de l'Inter Milan, Manuel Akanji.
On a vraiment bien joué aujourd'hui. C'était pas facile à la fin parce qu'ils ont tout le stade qui est contre nous, mais on a bien défendu, mais aussi le but, ils ont vraiment bien fait dans cette action. Mais on a commencé bien, on a eu des occasions au premier mi-temps, mais aussi au deuxième mi-temps, on a cherché les profondeurs avec Luca pour Brel et Johan, et ils ont fait de super moments, et on a marqué, et c'était très bien pour nous. On peut récupérer pour Wichura.
Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine a décroché un précieux succès, 3-1 sur le Qatar. Les Bosniens terminent 3e avec 4 points. Ils verront donc les 16e de finale du Mondial. Dans le groupe C à présent, duel à distance entre le Brésil et le Maroc. On s'attendait à une large victoire des Marocains sur Haïti, mais les Grenadiers ont donné du fil à retordre aux Lions de l'Atlas qui se sont finalement imposés 4-2. De son côté, le Brésil a déroulé contre l'Écosse. Victoire 3-0 grâce notamment à un doublé de Vinicius. On signalera le retour de Neymar entré en jeu à la 75e minute. Au classement, Brésiliens et Marocains terminent à égalité avec 7 points, mais grâce à une meilleure différence de but, le Brésil est premier et le Maroc deuxième. Avec 3 points, l'Écosse devra attendre avant de fêter sa qualification. Haïti, bon dernier avec 0 point, est éliminé. Et puis on termine avec le groupe A. Les rencontres ont débuté à midi. Le Mexique, déjà qualifié avec 2 victoires en 2 matchs, est opposé à la République tchèque, troisième avec 1 point. La Corée du Sud, deuxième avec 3 points, affronte l'Afrique du Sud, bonne dernière avec 1 point. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier.
Et demain, on jouera dans les groupes D, E et F. L'Australie jouera sa qualification face au Paraguay, l'Allemagne face à l'Équateur. Il faudra suivre aussi un duel entre le Japon et la Suède. Je vous rappelle que l'équipe de France jouera elle samedi matin à 6h contre la Norvège. La première place du groupe sera en jeu.
Peu importe le résultat du match, votre extérieur, lui, est parfait. Chez Azure Piscine Outdoor, on a tout pour rendre vos soirées foot inoubliables. Pergola et mobilier outdoor pour le confort des supporters, parements muraux en pierre ou PVC pour un style qui claque. Azure Piscine Outdoor à Magenta et Païta, 46 42 42.
À la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, ce sont les jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu. Nous allons nous intéresser avec nos invités au marché des hydrocarbures. À tout de suite.